Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Si vous aimez la BD, et vous aimez la BD puisque vous écoutez Pop-op-op, le nom de notre invité risque, je vous aurais prévenu, de provoquer un léger électrochoc. Grand prix du Festival d'Angoulême à la fin du siècle dernier, révéré par ses pairs, repéré par ses vers, oui, c'est aussi un poète, il draine une foule d'admirateurs inconnus ou célèbres qui ne tarissent pas d'éloges sur son goût pour l'absurde, le ciselage ébouriffé de ses dessins, son génie pour faire valser clichés, préjugés et autres lieux communs, sans oublier sa passion pour le pastiche, qu'il doit sans doute à ses origines puisqu'il vit le jour à Salon de Provence où l'on boit beaucoup de pastiche, et qui plus est un 16 mai, soit il y a à peu près 2 semaines, ce qui ne m'empêchera pas de lui souhaiter quand même un joyeux anniversaire, vu qu'au point où nous en sommes rendus tous les deux, nous ne sommes plus à un jour près. Donc, je n'irai pas par 4 chemins, ce qui est toujours une perte de temps quand on veut aller droit au but, et surtout quand l'invité en question se propose d'ouvrir pour nous la porte de l'univers. Et je dirais joyeux anniversaire Daniel Gosselin, oh, référence incontournable de cette BD si chère à nos cœurs. Et bienvenue dans Pop 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 et Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine de Caunes.
Bonjour donc, Daniel Gosselin.
Bonjour.
Et bienvenue dans Pop Pop Pop. Vous venez nous rendre visite pour parler de votre grand retour après 7 ans d'absence avec votre nouvelle BD La Porte de l'Univers, paru ce mois-ci chez Fluide Glacial. Nous allons en parler longuement avec Charline qui nous rejoindra dans quelques minutes, mais avant cela, j'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire aujourd'hui, à l'auteur de BD loufoque et déjanté ou au très sérieux enseignant-chercheur en intelligence artificielle à l'université Paris 8. Vous allez me dire que vous avez pris votre retraite.
Oui, j'ai pris ma retraite, oui. Mais je continue, ça m'intéresse de continuer à faire ce genre de recherche. J'étais plutôt un chercheur explorateur qu'un chercheur ingénieur, disons. Donc je peux faire ça tout seul chez moi, dans mon laboratoire secret.
Mais ça n'enlève rien au fait que pendant des années, donc, pendant la journée, vous étiez un très sérieux chercheur et la nuit tombée peut-être un auteur de BD.
Oui, en tout cas, j'étais enseignant, donc j'avais déjà les cours à assurer, tout ça. Ouais. Et donc, bon, j'ai probablement moins produit que ceux qui ne font que de la BD. Mais bon, j'ai réussi à maintenir les deux, comme ça, pendant des années.
Ça me rappelle la très célèbre histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Ah bon?
Non. Un éminent professeur pendant la journée, et puis un dessinateur zinzin la nuit. Ça vous va, ça?
Non, en fait, j'ai commencé par le dessin, tout petit. Moi, dans les marges de mes cahiers. Mais j'ai vraiment un goût pour le travail intellectuel. Donc, je l'ai fait, j'aurais pas pu faire que de la BD si j'avais été que dessinateur de BD et que j'avais dû gagner ma croûte avec la BD. J'aurais quand même fait de l'informatique, écrit des textes, construit des théories.
Vous êtes en train de me dire qu'il y a peu d'intellectuels dans la BD, c'est ça?
Non, c'est vrai que c'est pas... Mais chez les humoristes aussi, c'est rare. Les humoristes, ils s'en méfient en plus. J'ai l'impression que chez les humoristes, tout ce qui est analyse intellectuelle... ça fait peur.
Ouais. Et aujourd'hui que vous n'enseignez plus, Daniel Gosselin, comment compensez-vous l'absence de cette transmission rationnelle? Est-ce que vous avez dû prendre le pli pendant des années à enseigner, à apprendre?
Ça me gêne peut-être un peu, mais en fait, je suis parti bien avant l'âge de la retraite parce que l'ambiance était très dégradée. Je veux dire, les étudiants, à un moment, ont pris conscience du fait qu'il n'y avait pas de sanctions et que il pouvait saboter les cours. Donc je suis parti parce qu'on sabotait mes cours. Donc finalement, j'ai été plutôt soulagé.
Vous êtes soulagé et donc aujourd'hui, vous êtes un homme heureux?
Oui, oui.
Très bien. Je parlais de Dr. Jekyll et Hyde et Mr. Hyde. J'en profite pour glisser un petit Gainsbourg, tiens, histoire de se dégourdir les jambes.
Non, je ne suis pas le Dr. Jekyll. Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll, il avait en lui un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins.
Hello, Dr. Jekyll.
Je vous dis que je ne suis pas le Docteur Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde
des notes pour le docteur. De Dr. Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Oh, hi, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll.
Nous écoutions Gainsbourg en compagnie de Daniel Gossin, ce qui
formidable.
Est notre invité aujourd'hui, s'il vous plaît.
Oui, oui.
C'est la, vous avez aimé cette version particulière, c'est la version originale. Hein,
oui, bien sûr, bien sûr.
Alors c'est la porte de l'univers que nous pousserons ensemble dans quelques instants, Daniel Gossins, pour parler de ce nouvel album éponyme en compagnie de Charline. Mais d'abord, faisons un peu mieux connaissance. Vous êtes célèbre par la BD pour votre goût de l'absurde, d'un humour déjanté où l'on retrouve les Monty Python, du Desproges, du Gottlieb. Et donc, par ailleurs, vous avez longtemps travaillé sur cette fameuse intelligence artificielle. En quoi ce travail-là a-t-il nourri vos délires BD, et réciproquement peut-être ?
Bon, alors déjà, Monty Python,
Gottlieb
et Desproges, vraiment, c'est bien.
C'est,
alors là,
c'est pas mal.
Ah ouais,
c'est une bonne base.
Oui, oui, c'est mon panthéon. J'ajouterais peut-être Gary Larson, un cartooniste américain, voilà. Ouais. Mm-hmm. Ils se nourrissent pas vraiment. En fait, c'est plutôt... J'ai un fond de méfiance envers tout ce qui est croyance, tout ce qui est idéologie, et en particulier donc du côté de l'intelligence artificielle. Pour moi, le cerveau, c'est une machine, et donc c'est vraiment très intéressant d'explorer les mécanismes et de les simuler sur ordinateur, mais avec très peu d'ambition, c'est-à-dire on modélise sur ordinateur des petit mécanisme de perception, de compréhension, de raisonnement, et sans plus. Et puis, du coup, ben, ça me sert de, comment dire, de confiance, de terrain de confiance pour, dans ma pratique de l'absurde, ne pas avoir de frein du genre, est-ce que là, je vais pas trop loin, ou est-ce que je ne foule pas au pied quelque chose qu'on devrait, respecter sur le fonctionnement affectif ou je ne sais quoi.
Mais justement, à votre avis, Daniel Gossins, est-ce qu'une intelligence artificielle serait à même de porter un jugement sur votre travail, de le modéliser ?
Non, on en est loin. Moi, j'ai toujours que l'humour sera probablement le dernier domaine modélisable. Non, on en est très loin. Ce qui est à la mode actuellement en intelligence artificielle, c'est un truc qui s'appelle l'apprentissage profond, basé sur des réseaux de neurones, mais qui sont encore très loin de fonctionner comme les réseaux de neurones naturels. Ouais. Et ça fait de la perception, grosso modo, des statistiques, c'est-à-dire ça mémorise énormément de trucs. Et c'est pas rien, hein. Moi je sais que dans les années 90, les systèmes de reconnaissance de parole faisaient énormément d'erreurs, et là on a fait un saut, un bond énorme. Et c'est tout, ça m'étonne toujours de voir Siri, par exemple, écrire ce que je dis au fur et à mesure, et pratiquement sans faute.
Ouais.
Donc rien que ça, c'est un... Mais ça va pas très loin.
Ouais, la limite, dites-vous, c'est un exemple que vous prenez, c'est celui du petit pousset.
Oui, ben, par exemple, le petit pousset, c'est d'une complexité effrayante. Comment modéliser sur ordinateur le fait que... imaginons une fin différente au conte du petit pousset, je sais pas, un truc du genre les petits poussets et ses frères retrouvent le chemin de la maison, ils se font cuire un bon steak et ils vont faire une sieste. Pourquoi nous c'est instantané, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à faire de la résolution de problèmes complexes. Mais pour une machine, ce genre d'absurde est inaccessible. Et donc il y a une sorte de sens commun dans tous les contes pour enfants qu'on sait pas modéliser sur ordinateur. C'est pas seulement un manque de connaissances. Il y a des gens qui ont cru ça. Si on bombarde l'ordinateur de connaissances tous azimuts. Non, ça marche pas. On aboutit à rien du tout. On a quelque chose, nous, c'est notre compréhension, qu'on appelle aussi un peu notre conscience, la conscience de qui on est, qui apparaît brutalement quand on sort du lit, quand on a fini de rêver. Ouais. Des fois, on se rappelle d'un rêve. Et dans les rêves, il se passe des choses absurdes qu'on accepte. C'est-à-dire, on n'a pas ce sens, cette conscience. On accepte tout ce qui est absurde.
On n'analyse pas, quoi.
Voilà, on n'analyse pas, on n'a pas de recul. Et brutalement, on se réveille, on se dit « Oh bon sang, mais qu'est-ce que, mais de quoi j'ai rêvé ? Mais c'est absolument incroyable. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que j'étais, comment dire, j'étais moi. Moi dans un rêve, mais moi quand même. Pourquoi j'ai pas remarqué que j'étais dans un monde absurde ? Et une fois réveillé, on remarque tout ça. D'un seul coup, on n'est plus perdu. On sait où on se trouve dans la connaissance. Et bon, bah, pour l'instant, il n'existe pas un seul programme, et à mon avis, pour encore un temps très long, capable de ne pas se perdre dans la connaissance.
Ben vous me rassurez d'une certaine manière, parce que nous avons parfois recours ici au service d'une intelligence artificielle. C'est mon petit Siri à moi. Tiens, d'ailleurs, on va lui demander son avis. Siri ! Alors, c'est un modèle de service public, hein, il n'est pas hyper réactif, il a aussi ses lenteurs qui ne sont pas qu'administratives. Mais regardez, Daniel. Siri, as-tu le sens de l'humour ?
Oui, Antoine.
Bien. Alors déjà, sois poli si t'es pas joli. Hein. Dis bonjour à notre invité.
Bonjour, monsieur Grossin.
Ouais, alors, déjà, c'est pas Grossin, encore que Daniel les dessine à la perfection. Non, c'est Gossens.
C'était de l'humour. Antoine.
Et voilà la réponse à la question, Daniel Gossens. Non seulement l'intelligence artificielle n'a aucun humour, mais quand il essaye, c'est vraiment foiré. Allez, dégage, Siri. Allez, casse-toi. T'as assez vu, toi. Voilà. Connard. Oui, c'est ça, connard. Bien, alors revenons à nos moutons. Ou plutôt, revenons à nos boucs. Ou plutôt à François Bouc, que nous recevions ici même il y a quelques semaines. Un autre géant de la littérature. Et vos dessins ont quelques points communs, au point que, je ne sais pas qui a commencé, mais l'un a accusé l'autre de le plagier, tandis que des observateurs extérieurs vous accusaient de vous plagier mutuellement.
Alors, qui c'est qui a accusé l'autre de le plagier?
Certainement lui. Ça doit venir de lui.
Bon, non, bon. Je ne sais pas. Nous. Alors, on a les mêmes références. C'est-à-dire, on était des fans de Mad Magazine aussi. Et puis, il y avait des dessinateurs. Bon, moi, j'ai oublié les noms. C'est l'âge.
Ouais.
Mais bon, tu vois, quoi. Vous voyez, pardon. Oui, c'est ça, voilà. On avait des. Ah, si, il y avait Alexis, par exemple, un dessinateur du journal Pilote.
Ouais.
Voilà. Et on était tous influencés, on avait envie de dessiner un peu. Ces dessinateurs-là, ils avaient une particularité, ils avaient envie de dessiner les plis des vêtements, les chaussures en trois dimensions, dans toutes les positions, etc. Bon, bah, avec Book, on a repris un peu ce train-là, on avait envie
même
de...
fait un petit manuel pour apprendre à dessiner
un
tout ça.
Un petit manuel pour les plis, exactement.
Ouais. Oui, je sais tout. Ah, bravo. Donc, Book, c'est de la calomnie à l'état pur, comme d'habitude.
Oui, mais surtout, je me rappelle pas qu'on ait eu... quelques animosités entre nous et moi.
Ça ne m'étonne pas venant de ce sinistre individu, vraiment. Bon, Daniel Gossens, dans quelques instants, nous serons rejoints par Charline Roux pour parler de votre nouvel opus, La Porte de l'Univers, publié chez Fluide Glacial, institution française à laquelle vous êtes resté fidèle depuis de nombreuses années. Il y a un esprit fluide auquel vous êtes très attaché, et si oui, comment est-ce que vous le définiriez en deux mots ?
Bon, alors là, oui, il y a eu un esprit fluide, il y a eu une équipe fluide et il y a eu un âge d'or de Fluide Glacial. Ouais. Mais en même temps, il y avait des individualités. Il y avait Lelon, il y avait Blutch, il y avait l'esprit fluide. Ça serait surtout autour de Edika, je dirais. Ouais. Edika, Maester, Binet. Et puis à un moment aussi peut-être Coyote. Mais je ne saurais pas le définir. Une sorte de grand enthousiasme populaire pour un humour débridé.
Très bien, ça me convient comme définition. Eh bien, aujourd'hui, puisque c'est une belle journée, je vous propose, moi, un petit Bill Withers pour fêter ça. Et le morceau, bah, c'est évidemment Lovely Day. C'est pas une intelligence artificielle qui aurait trouvé ça, tiens.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that
impossible to fail. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone.
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop.
Et c'est Bill Withers que nous écoutions à l'instant, Lovely Day. Mais voici que de sa Picardie natale nous arrive Charline Roux, les oreilles encore pleines du chant des cigales. Et oui, c'est aussi ça le réchauffement climatique.
Bonjour.
Bonjour, vous avez bonne mine en plus.
Oui, c'est l'alcool de betterave.
Alors Charline, la porte de l'univers, la nouvelle BD de notre invité Daniel Gossens, qui trouve-t-on quand on la pousse?
Eh bien c'est l'histoire d'un mec, oh pardon, qui fait des blagues pour vivre. J'entends par là que c'est son métier, un humoriste vieillissant dans un monde en perpétuel besoin de nouveautés, c'est criminel. Il s'appelle Robert Cognat et pour ne rien arranger, il souffre d'une légère panne d'inspiration. Mais avant de tirer sa révérence professionnelle, Robert Cognat voudrait trouver une grande idée, une blague ultime pour finir en beauté. Mais je n'irai pas plus loin, histoire de ne rien spoiler. Ce Robert Cognat, rien que la sonorité est intéressante, vous le décrivez comme un illuminé. Je demande donc au créateur d'où lui vient la lumière.
Ah, bon bah déjà, moi j'ai remarqué un truc après coup. Bah, je veux dire, quand on fait du comique comme ça, on n'a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode pour trouver les gags, donc on les prend au fur et à mesure quand ça arrive. Quoi. C'est pour ça d'ailleurs que là j'ai traîné longtemps, près de 7 ans.
Vous les classez, vous les rangez,
je les classe
vous les
dans les dossiers.
Ouais.
Voilà, exactement. Mais le pire c'est que c'est vrai, mais sinon j'aurais pas eu cette idée. Et donc j'ai remarqué après coup, moi j'aime bien réfléchir pourquoi. Et donc Cognat est très combatif, il est ardent, c'est pas un type pusillanime ou débonnaire. Et puis deux...
Il est toujours en colère.
Oui, il est toujours en colère. Et alors un truc qui
Cognat.
Oui, Cognat, exactement. Cognat, c'est ouais. Voilà. Et donc, je le décris un peu dans la postface que j'ai mis dans l'album. Il utilise énormément, pour dominer dans ses échanges, houleux avec les autres, il utilise beaucoup d'humanisme. Et surtout avec une énorme maladresse. Mais j'ai remarqué qu'effectivement, pratiquement toutes les séquences, si on les prenait une par une, il y a toujours un besoin. Alors par exemple, celle où il veut ajouter une pierre au mur qui arrête le temps de la connerie, ouais. Voilà. Il est toujours dans une démarche comme ça, que j'avais pas prémédité. J'avais pas prémédité ce truc-là. Et en fait, c'est normal, quand on cherche des séquences comme ça, on cherche quelqu'un qui soit pugnace. Et j'ai l'impression que quand on est pugnace dans les conflits sociaux, on se réfugie beaucoup plus facilement derrière les forteresses de l'humanisme, parce que ça donne une position inexpugnable.
Mais alors justement, cet illuminé souvent énervé, qui a souvent le visage d'un homme qui fulmine, est-ce que c'est un plaisir de dessin particulier?
Ah oui, bon, déjà, oui, lui, qui utilise des expressions des années 40 ou 50, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il dit, Hérangé Nicolas, c'est peau de balle. c'est un plaisir, ça. Ça, c'est un plaisir, croquer ce personnage-là. Ouais.
On croise beaucoup de monde dans l'univers de Robert Cognat. Dieu, une Sharon Stone, un Esquimau, le bœuf de Kobe, des femmes nues et quelques pelletés de clichés détournés. Bref, il y a du monde là-dedans.
Ouais,
il y a du monde là-dedans, c'est il y a du monde
dans sa tête,
dans la tête de Daniel Gossens.
Et dans la tête de Daniel Gossens. Ouais. Ben oui, puisque finalement, ça ressemble aussi un peu à un personnage que j'ai dans une autre série qui s'appelle Georges et Louis.
Ouais,
ça ressemble au personnage de Louis. D'ailleurs, qui intervient dans cet album. Ça m'a permis de faire quelques petites digressions juste pour l'amusement là.
Georges et Louis, c'était un dialogue, c'était
oui,
un peu votre Bouvard et Pécuchet.
C'est ça, ouais. Qui me permettait d'aborder des sujets très très différents.
Ouais.
Et là, du coup, il y a cette possibilité quand même, j'ai réussi à introduire cette possibilité que Cognat permette d'aborder des sujets comme le bœuf de Kobe. C'est vachement important.
Mais c'est vrai que la porte de l'univers est extrêmement référencée, que ce soit en citations célèbres quelque peu modifiées, on peut rire de tout, mais pas n'importe qui. Comme de personnages tout aussi illustres, on croise Popeye, Corto, Goscinny, un type à houppette et son camarade barbu dont on ne citera pas le nom, un pilier de bistrot à faciès présidentiel et peut-être même Jean Dujardin, il m'a semblé, au détour d'un salon du rire. Quel casting, comment est-ce que vous choisissez ceux que vous allez convoquer dans votre BD ?
Ah là, ça dépend des scènes. C'est les scènes, moi, que je note. Hein, par exemple, il y a un moment, une scène de série policière américaine. Donc j'avais la scène de série policière américaine et je l'ai introduite dans cette histoire de cognard hein, qu'a priori, elle avait rien à voir. Mais bon, moi, j'arrive à faire n'importe quoi. Et on est dans l'humour absurde, donc tout se justifie. Vous avez parlé de Jean Dujardin. C'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit.
Oui. Ben oui.
Et je savais pas. Mais par contre, j'adore Jean Dujardin et son personnage dans OSS 117 et dans d'autres films.
Ben, c'est un personnage au Salon du Rire qui rit comme Jean Dujardin.
Ah, d'accord, c'est ça, oui. Mais si j'avais voulu faire Jean Dujardin, je crois que j'aurais fait une scène plus longue.
Et comment est-ce que vous convoquez ces personnages? Ils arrivent comme ça, ex abrupto, comme vous parliez du passage du rêve à la réalité.
C'est des scènes qui arrivent au hasard. Alors, quand je me mets à ma table et que je me dis, allez, je vais dépenser une journée à chercher des gags sur un thème, hein, il faut que je les... En général, à la fin de la journée, c'est un peu déprimant. Je tourne en rond, ça, tout se ressemble.
Ouais.
Donc non, je suis obligé d'attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne par hasard.
Mmh. Ouais. Il y a même un Corto Maltese, hein, Corto Maltese avec une casquette Ricard sur la tête, Pernod d'ailleurs, c'est pas Ricard. Et on sent que c'est un hommage, mais aussi que vous le trouvez un petit peu tête à claque, ce Corto. Je m'avance trop loin.
Bon, alors, non, c'est un hommage. Et franchement, Pratt trouve qu'il a réussi là quelque chose de prototypique.
Ouais.
Donc, pour illustrer cette sorte de romantisme cortesque, on va dire, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Il y a Pratt et Corto Maltese.
Ouais.
Donc voilà, maintenant, c'est une référence. Et ça sert à ça, l'humour absurde. On prend des références, les plus, pas seulement les plus connues, les plus caractéristiques. Mm-hmm. C'est pour ça que je prends Corto Maltese. Mm-hmm. Bon, évidemment, quand je vois Corto Maltese, après, bon, j'ai envie de le désosser. sa casquette, effectivement, je sais que c'est... Il a du succès avec les femmes, beaucoup plus que moi. Mais c'est à cause de son uniforme, évidemment.
Il est un peu moins sexy dans votre bande dessinée, il faut dire ce qu'il est.
Oui.
Et puis tous ces personnages qu'on énumère là avec Charline depuis un moment, en fait, tout ça, ça appartient à une galaxie qui s'appelle la pop culture.
Oui, bien sûr.
Dont vous êtes très friand vous-même.
Bah, en tout cas, je suis dedans, je baigne dedans. Mmh. Je suis un petit peu nuancé sur la pop culture parce que dans la pop culture, on me présente comme plutôt quelqu'un de décalé et puis d'élitiste ou je ne sais quoi. Mmh. Et du côté des élites, on me dit que je suis un peu vulgaire. Donc je sais pas où me placer.
La pile poil au bon endroit. Dans la préface du livre qui est signé Edouard Baird, on peut lire « On s'appelle tous Robert Cogneur, surtout quand on a cherché à faire rire il y a 20 ou 30 ans. » C'est donc le moment d'exhumer la question dite Bovary. Cognard, c'est moi, c'est lui, c'est vous?
Non, c'est un personnage qui ne peut pas exister. Ouais. C'est un personnage totalement abstrait. Moi, je fais que ça. Mes personnages sont totalement abstraits. Je ne vois pas qui pourrait, dans la BD que j'ai faite, exister dans le monde réel. Aucun. Ah ouais. Sauf dans des séries, par exemple. Donc, les gens qui interviennent dans la série policière, là.
Ouais.
On pourrait les imaginer dans une série, mais pas dans le monde réel. Mmh. Non, Cognard, c'est un type qui classe ses gags. Bon, c'est vrai que moi aussi, je fais un petit peu. Mais pas à ce point, quand même. J'ai pas un mur entier.
Ah, j'ai pas un mur avec des tiroirs.
Non, j'ai pas ça. Et puis, il est vraiment abstrait. Ça n'existe pas, des gens qui veulent faire rire en tutu toute une carrière avec des mollets ou qui ont la jambe absolue, ça n'existe pas.
Ouais. Non, j'en connais pas. Mais...
Oui, voilà, fille des écoles, voilà, petits clowns en patins à roulettes, ça n'existe pas.
Et alors, en tous les cas, pour les personnages, je ne sais pas, mais vous dites que les clichés sont ma matière de prédilection. Et on sent un plaisir malin, hein, voire un malin plaisir à les tordre, à les démonter. Encore faut-il les percevoir, ces clichés, dans la vraie vie. C'est un talent qui n'est pas unanimement partagé. C'est une possible source de conflit, ça?
De conflit, c'est-à-dire unanimement partagé. Il n'y a que moi qui sais faire ça?
Non.
Mais percevoir les clichés, c'est pas à la portée de tous.
Non, c'est vrai.
Que vous voyez comme un cliché, ce sera mais pas forcément.
On parlait tout à l'heure, on citait des proches, on citait Gary Larson. C'est que ça, c'est des clichés. Des proches prenaient des clichés en référence et les tordaient, les transformaient. il prenait, je sais pas moi, un début de roman de Victor Hugo, et puis il glissait un petit truc qui mettait le roman dans un autre contexte. Et qui inverse, moi c'est ça qui me surprend, ouais. C'est rigolo dans les gags absurdes, en tout cas dans l'humour que j'aime pratiquer et consommer, c'est souvent ça, c'est on prend une sorte de petit métaphore, une sorte de système de valeurs et on le plaque dans une autre situation et ça inverse les jugements de valeurs, ce qui était magnifié devient ridicule et inversement.
Ouais. La porte de l'univers, c'est le titre de ce nouvel album de Daniel Gossens, très attendu, hein, parce que c'est le premier depuis 7 ans. On va continuer à en parler évidemment dans un instant dans Pop Pop Pop, mais pour l'instant, figurez-vous, mon cher Daniel, que nous faut rentrer dans un autre univers, celui des Pop News.
On continue d'explorer la saison 4 de Stranger Things en ligne depuis vendredi sur Netflix en compagnie de Noah Schnapp, l'interprète de Will Byers, l'enfant qui a vu de trop près l'Upside Down, cette dimension parallèle peuplée de beaucoup trop de monstres. Dans Stranger Things, et ce depuis la première saison, Will est un personnage à part, à la fois dans un groupe et hors du groupe, puisqu'en proie aux démons de l'Upside World, un gamin particulier, voici la manière dont Noah Schnapp, son interprète, définit sa psychologie.
Yeah, so Will's like kind of the only
Will, c'est le seul qui rentre dans aucune case. Il a toujours été marginal. Cette saison, on le voit vraiment, car tous les autres appartiennent à un groupe, les sportifs, les nerds. Et Will ne trouve sa place nulle part. Et je pense que beaucoup d'adolescents qui se sentent seuls peuvent s'identifier à lui et c'est normal.
Un adolescent presque comme tous les autres, en somme.
Chaque saison de Stranger Things est très référencée, des Goonies à Ghostbusters en passant par Alien, pour n'en citer que peu de références, et l'influence majeure de cette nouvelle saison semble être le film d'horreur des années 80, notamment Les Griffes de la Nuit. Le point commun entre toutes ces œuvres, c'est que Noah Schnapp, 17 ans, n'était pas né au moment de leur sortie. Les tournages de Stranger Things lui ont donc, de fait, demandé beaucoup de préparation.
Ouais,
tout à fait. C'est très intéressant de voir à chaque saison les références qu'ils utilisent. C'était surtout très frappant pendant la première saison, quand je connaissais pas du tout les années 80 et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai regardé beaucoup de films, j'ai fait plein de recherches et maintenant j'ai tellement l'habitude des années 80 que c'est comme si j'y avais grandi. Je m'y connais plutôt bien maintenant.
Et je rassure les amateurs de précision capillaire, oui, Will Byers porte toujours la coupe au bol typique des années 80.
Noah Schnapp est donc un jeune comédien de 17 ans, très actif et très suivi sur les différents réseaux Twitter, Instagram, TikTok. Et dans la série, il incarne un môme des années 80 qui joue à Donjons et Dragons et communique par talkie-walkie ou via téléphone fixe, celui de la maison. On a donc demandé à Noah Schnapp comment, selon lui, Will se débrouillerait avec le monde virtuel.
Je pense pas qu'il s'en sortirait très bien sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est trop timide. Il aura un compte, mais il posterait rien dessus. Mais il regarderait tout. Je pense que c'est cool, les années 80 sont incroyables pour ça. C'est juste du fun, de la nourriture et de la musique. Pas de téléphone ou de réseaux sociaux. J'aurais aimé pouvoir grandir comme ça.
Alors si vous voulez vous replonger dans cet univers chatoyant des années 80, si vous avez envie de vous faire peur, Stranger Things saison 4 est dispo sur Netflix et le volume 2 arrivera le 1er juillet.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Et nous sommes de retour avec Daniel Gossens pour parler de La Porte de l'Univers, son nouvel album qui vient de paraître chez Fluide Glacial avec ce héros, Robert Cognard.
Et justement, dans la BD, Robert Cognard dérape la mauvaise blague, la sortie de route, et le voilà sur le banc des accusés. Mais pour vous, quel est le pire crime en matière d'humour?
Oula, le pire crime le pire crime en matière d'humour? Ah, c'est d'être militant. Je sais qu'il en faut, hein, il en faut, mais moi, j'aime pas du tout l'humour militant. L'humour qui prend un camp et qui est sûr de lui. En humour, en général, on n'est pas sûr de soi, justement. C'est pour ça qu'on essaye de se moquer juste des mécanismes les plus abstraits possibles. Et on veut pas rentrer dans le jeu des opinions.
Qu'est-ce qui vous fait rire d'ailleurs aujourd'hui? Parce qu'on citait Monty Python, Gottlieb, des proches, d'accord, ça c'est les ancêtres, ou Gary Larson, évidemment. Mais aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent à faire rire, qu'est-ce qui vous amuse, vous, Daniel Gossens?
Bah moi, qu'est-ce qui m'amuse? Vous voulez dire chez des auteurs ou dans la vie?
Oui, dans la partout.
Ouais, partout.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais là, c'est difficile comme question.
Vous en tirez comme ça?
Ah oui. Bah moi, je continue à consommer. Chez nous, il y a des, il y a Pascal Furetto qui fait des pastiches qui sont tordants. Il y a Vincent Audiquet qui fait des aphorismes qui sont tordants. Sinon. J'ai cité Blanche Gardin dans la série.
On en reviendra tout à l'heure.
Ah ouais. On en parlera tout à l'heure. Je développe pas.
Et dans la vie de tous les jours.
Il n'y a pas grand chose qui me fait rire là. En ce moment, ouais. En ce moment, j'ai pas grand chose. C'est plutôt le contraire. Je suis plutôt un peu inquiet. J'ai des inquiétudes qui montent.
La quête de sens dans laquelle se lance Cognard est celle de l'humour, son caractère mystérieux, ses contours. Vous avez-vous la particularité d'en pratiquer sous de multiples formes, avec cependant un point commun à tous vos traits et toutes vos saillies, la surprise. Être imprévisible, est-ce que c'est l'une des clés de votre drôlerie?
Ouais. Absolument. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si je me mets devant ma table et que je cherche des gags, au bout de la journée, j'aurai des trucs qui se ressemblent. Enfin, moi, je trouve que ça donne un côté un peu moulinette à gag. Donc, j'attends et j'aime bien trouver par hasard, en regardant un film, en lisant un bouquin ou dans la rue. Je me souviens, par exemple, de Riyad Satouf qui a fait une série qui s'appelait La vie secrète des jeunes. Oui. Ah ouais, qui était fabuleux. Oui, et il, dans le métro, comme ça, il notait des petites tranches de vie. Je trouve ça vachement bien d'aller en permanence se ressourcer et puis d'attendre le petit clic.
Ça pourrait faire partie de votre méthode, ça, ou vous attendez d'être vraiment devant votre table, ou au contraire vous vous promenez tout le temps avec un carnet de croquis?
Non, parce que je fais de l'humour absurde, donc je note pas des anecdotes. Ça serait pas mal, ça, effectivement, noter des anecdotes, ça donnerait de la matière. Là, dans l'humour absurde, non, faut attendre d'avoir une sorte d'interprétation d'un petit spectacle qu'on a devant soi, de trouver une idée d'interprétation qui inverse tout.
Mais vous réussissez à vous surprendre vous-même?
Ah ouais, quand il y a des idées que je trouve... D'ailleurs, j'aime bien faire ça. Il y a des idées que je trouve qui m'enthousiasment, je les note, et puis je les relis 6 mois après. C'est pour ça aussi que je prends beaucoup de temps. Et il y en a plein que je mets à la poubelle, du coup. Je me dis, mais comment j'ai pu? Dans quel état j'étais pour... Et puis des fois, c'est le contraire. Des choses que j'avais notées sans trop y penser, je les relis, et puis hop, il y a un petit déclic qui fait que... Et puis des fois aussi, je crois que Gary Larson raconte dans ses bouquins qu'il travaille comme ça, il note des trucs... Et puis en y revenant longtemps après, il a un autre point de vue qui fait que ça déclenche un effet comique.
Daniel Gossens, on sent qu'il y a une ligne de conduite de Cognard, hein, qui est peut-être aussi la vôtre. C'est celle qui consiste à apporter, comme vous le disiez tout à l'heure, une petite brique au mur qui essaye d'arrêter le fleuve de la connerie. Avec quand même le risque de constituer un réservoir à conneries.
Un grand lac.
Bah oui, un grand lac.
Absolument. Mais j'avais pensé à ça. J'avais vu, en fait, il y a très longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 10 ou 15 ans, un humoriste dire ça à la télé. Très modestement. J'ajoute une pierre au mur. Et ça m'avait fait penser instantanément à ça. Voilà comment on a tes idées. Ouais. Je m'étais dit, mais il faut lui présenter le type qui ajoute de l'eau au torrent, qui essaye de faire écrouler le mur de la connerie. Et donc, j'avais noté l'idée en me disant, j'ai exploité un jour, je sais pas quand. Puis bon, voilà.
C'est une entreprise titanesque, hein, quand même.
Oui.
Vous êtes bien conscient. C'est ce que vous faites. Comment se fait-il qu'il se soit écoulé 7 ans entre votre dernier album et celui-ci? Je vous demande ça parce que vous avez mis aussi en veilleuse votre tandem Roger et Louis, dont vous parliez tout à l'heure.
Mais enfin, je viens de vous le dire. Je vais faire du Daniel Prévost. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire, c'est qu'il me faut du temps pour laisser venir.
7 ans.
Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai voulu traîner parce que je voulais faire une histoire qui se tienne. L'album d'avant, je faisais les nouvelles séparées. Et puis, c'est vraiment une autre gymnastique dans les nouvelles séparées. Donc, il faut que chaque nouvelle se tienne. Et une sorte de justification. Là, je pouvais me permettre, enfin, de dérouler des scènes sans avoir le besoin, l'obligation, au bout de 4 pages, de mettre une justification. Et donc, ben du coup, 65 pages, ça prend du temps, quoi. Ça m'a pris peut-être 2 ans pour faire le scénario. Et puis c'est très long, hein, le dessin, et surtout la couleur.
Mais d'une certaine manière, ça donne raison à ce qu'Edouard Baird dit dans la préface, qu'on a tous, quand on a cherché à faire rire il y a 20 ou 30 ans, on est tous un peu cognards à notre manière, parce que c'est une manière de chercher la pérennité de l'humour, que ça passe l'épreuve du temps. C'est aussi un peu ce que vous cherchez, en laissant le temps de repos.
Oui.
Donc il n'a pas tort, Edouard Baird.
C'était pas mal quand même.
Donc il n'a pas tort, Edouard Baird.
Hein, il n'a pas tort. Non, mais attendez, il parle jamais à la légère, Edouard Baird.
On reconnaît quand même souvent un artiste à la qualité de ceux qu'il défendent. Donc là, en l'occurrence, en ce qui vous concerne,
ah Edouard ouais,
Baer,
je suis content, alors,
Benoît ouais. Poulvord.
Ça a été une bénédiction.
Benoît Poulvord qui vous révère, littéralement.
Oui, 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 oui. Ben, j'en suis content, parce que moi, j'adore et Baer et Poulvord. Mmh. Et Michel Hazanavicius,
oui.
Et voilà, enfin bon,
ah, y a
Léo S117,
que des gens sinistres, oui, vraiment, décidément.
Il y a un courant qui se dessine là, très nettement.
Moi, je suis extrêmement flatté, ça suffit pas.
Bah écoutez, je m'ajoute au club.
Ouais, merci.
Avec Charline.
Oui, mais enfin, moi, je suis personne. Non,
c'est vrai, c'est vrai. Charline n'est personne.
Moi, je m'ajoute au club. J'ai rêvé en vous voyant pendant des.
Vous avez rêvé de quoi?
J'ai rêvé d'humour.
Ah.
J'ai dit un jour il va m'humer.
Attendez, vous allez me dire que j'ai fait partie de vos rêves, Daniel Gossens?
Oui.
Alors là. Non mais.
C'est-à-dire que vous serez peut-être bientôt dans un album.
Vous allez me faire rougir. Bon, on découvre aussi avec stupéfaction aux confins de l'univers que Dieu est belge et n'en a strictement rien à carrer du sort de sa création. C'est l'idée que vous pourriez vous faire de votre propre religion, si toutefois vous aviez.
Oui, bah évidemment, évidemment. Pour moi, c'est des constructions humaines et donc. Et donc, si j'arrive effectivement à montrer le côté mes hésitations là, ça vient du fait que j'ai pas envie d'être un bouffeur de curé. Mmh. J'aurais envie de dire c'est grotesque, tout ce qu'il y a dans la Bible et tout ce qu'on imagine sur l'au-delà, le paradis. Mmh. Mais il faudrait un mot plus faible que grotesque. Alors je sais pas si vous avez des suggestions. Absurde. Mais c'est des constructions humaines.
Des
c'est
constructions.
Pas mal, ça. Des
oui,
constructions
c'est,
humaines.
C'est des histoires.
Tout bêtement.
Oui.
Et qui se comprennent bien. C'est normal qu'elles soient comme ça. Donc j'en fais une supplémentaire, là.
Vous le disiez, le livre est aussi accompagné d'une postface que vous signez, une réflexion sur l'humour. Là aussi, une question. Qu'est-ce qui fait qu'un gag est drôle? Pourquoi avoir choisi d'accompagner cette bande dessinée, ben justement, d'une réflexion écrite, non dessinée et
Alors, on n'est pas obligé de faire ce genre de truc. C'est vraiment une question de tempérament. Mmh. Les humoristes détestent, généralement. Mmh. Moi, j'ai une carrière parallèle d'intellectuel. Ouais. Hein, peu importe que ce mot soit péjoratif ou pas, mais j'ai une carrière d'intellectuel, il faut que je l'assume. Et donc, j'aime réfléchir. Et donc, bon, je peux pas m'empêcher, en faisant ces albums, de réfléchir et puis d'avoir des idées. Et quand on est un intellectuel, on fabrique des théories et on sait qu'elles sont toutes... c'est des hypothèses, c'est jamais la vérité. Si la vérité n'est pas marquée par magie comme ça dans l'esprit. On a une petite intuition qui guide, hein, puisqu'on fabrique ces gags. Mais après, faut tester. Et donc c'est ce que j'ai fait dans cette postface. J'ai écrit... ce que j'écris pour moi dans des petits papiers que je classe dans des grands classeurs sur des murs infinis. J'en ai placé quelques-unes dans la postface, quelques hypothèses, voilà, sur. Alors c'est pas assez qu'est-ce qui fait que quelque chose est drôle ou pas, c'est pas ambitieux comme ça, ça je saurais pas répondre. Mais c'est plutôt des considérations générales sur de quoi je me moque par exemple. Et donc j'ai l'impression que je me moque de des mécanismes sociaux, c'est-à-dire la façon dont les gens sous connivence, on est tous sous connivence. Alors connivence, c'est un peu flou comme mot. Pour moi, une connivence, c'est un sac d'opinions intimidantes ou séduisantes qui fait que si on les prend, on est tranquille en société, quoi. Si on se camoufle derrière, tout va bien, etc. Et donc on se protège derrière ce genre de choses. Et donc Cognard, c'est un peu ça. Il utilise des opinions qui normalement devraient lui donner le rendre dominant, disons, dans ses interactions sociales. Et puis comme il est extrêmement maladroit, à chaque fois ça foire.
Cette petite merveille, ça s'appelle La Porte de l'Univers. C'est la dernière BD de Daniel Gossens, notre invité aujourd'hui, et c'est édité chez Fluide Glacial. Daniel, si vous le voulez bien, vous restez avec nous, car dans quelques instants, nous allons examiner vos recommandations en matière de pop culture. Ce sera votre pop-list. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ensemble One and Only. C'est un morceau de Gabriels.
True, maybe you've done your share wrong and left some angels with.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ça, c'est la musique de Super Mario.
Super Mario.
Et c'est le son qui évoque pour vous la pop culture. Je vous imaginais, mais alors absolument pas en train de jouer à Super Mario.
Moi non plus. Et d'ailleurs, j'y ai joué un peu, j'étais obligé parce que j'avais des gosses qui jouaient à ça, mais je suis très mauvais. Mais eux, par contre, ils ont joué. Donc j'ai entendu cette musique, mais alors en long, en large, pendant des années.
Des heures et des heures.
Des heures et
des
donc,
heures. C'est à ce son donc, que vous associez aujourd'hui la pop culture.
Ben non, pas à ce seulement à ce son-là. C'est la pop culture, pour moi, c'est un chaos de sons. Donc bon, il fallait en choisir un. Voilà, pourquoi pas celui-là.
Eh, va pour Super Mario.
Et bien. Attends, un petit truc quand même, enfin, sauf si j'ai
pas
le temps.
Non, allez-y, on a toujours le temps ici.
Et ben, c'est que du coup, cette musique est devenue une référence. C'est-à-dire, maintenant, moi, j'adore écouter des gens qui font des merveilles au piano ou à la guitare. Et donc, il y en a qui adaptent, enfin, qui font des arrangements guitare ou des arrangements piano de cette musique. Et du coup, c'est fabuleux, c'est musical, c'est incroyable, quoi. Alors qu'au départ, c'était un peu mécanique.
Oui. Je me demande si le sacre du tympan n'a pas fait quelque chose
absolument,
avec la musique de Mario.
Absolument, ouais, tout à fait. Super Mario, c'est le son qui ouvre votre pop list, Daniel Gossens. C'est parti. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série que vous appréciez en ce moment. Votre livre du moment, c'est L'anomalie du train 006 de Pascal Fioretto chez Herodios. Charline, tout ce qu'il y a de plus sérieux, j'ai l'impression.
Ou pas, un livre sur le bandeau duquel on peut lire « Un Goncourt peut en cacher un autre ». C'est signé Hervé Le Tellier. Et pour cause, en novembre 2021, un événement insensé bouleverse les vies de 10 écrivains célèbres, tous passagers du train Paris-Brive-la-Gaillarde qui les emmène à la traditionnelle foire du livre. Parmi eux, Virginie Despentes, Emmanuel Carrère, Aurélie Valogne, Joël Dicker et Sylvain.
Bref, toutes les stars de la littérature française contemporaine.
Voilà.
Qu'est-ce que ça donne tout ça, Daniel Gossens ?
J'aurais envie de dire que l'humour absurde montre, se contente de montrer. Il juge pas, il milite pas. Et là, Pascal Fioretto, donc dans ses pastiches, je vous recommande tous les pastiches. Et si c'était niais, etc. Ouais, il en a fait plein. Il montre juste le narcissisme des écrivains. On a le droit d'être narcissique hein, quand on est écrivain. Bon ben il montre ça, c'est tout. Et puis ça se voit, c'est magistral. J'aurais qu'un mot magistral.
Oh très bien. Ah, L'anomalie du train 006 de Pascal Fioretto chez Herodios. Voilà un livre magistral. Votre film du moment, Daniel, c'est The Father de Florian Zeller avec Anthony Hopkins. Charline, comment va Anthony d'ailleurs?
Moyen. Anthony a bientôt 80 ans, il vit seul dans son appartement de Londres et refuse toutes les aides-soignantes que sa fille Anne tente de lui imposer pour une bonne raison. Elle veut partir s'installer à Paris avec l'homme qu'elle aime. Et d'ailleurs, Anthony, il serait pas un peu en train de dévisser ?
What's the matter, Dad?
Strange things going on around us.
Don't worry, everything will sort itself out. Saw it in his eyes, didn't they, who I was? It was like I was a stranger to him. Just did something to me.
I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up.
What are you talking about, Dad?
I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat!
Le film Plus que la pièce, donc, de Florian Zeller. Daniel
je connais
Gossens.
Pas la pièce.
Anthony Hopkins y est peut-être pour quelque chose.
Ah ouais, il joue, mais alors c'est absolument incroyable. Mais rien qu'en entendant ça, là, j'avais des frissons. Et alors vraiment, ça m'arrive pas si souvent, parce que je suis humoriste, j'ai eu les larmes aux yeux.
Dans bon, plusieurs ça ne vous arrive pas souvent d'avoir les larmes aux yeux,
oui, parce que
vous êtes humoriste.
Oui, parce que les humoristes, ils sont...
Les humoristes ont le cœur sec.
Ils sont caustiques, ils ont le cœur sec, ils n'aiment pas le sentiment. Et là, vraiment, sur plusieurs scènes. Et surtout, on voit pas les coutures. Par exemple, oui, on n'est pas un public facile parce qu'on voit assez facilement quand on utilise des recettes pour faire pleurer. Et là, vraiment, il y a des scènes où Florian Zeller, donc, mélange la folie, enfin la difficulté à bah on parlait de perte de conscience à un moment, je crois. Voilà, c'est ça, on est en plein dedans. Il est dans un rêve de plus en plus, hein, il a une sorte de maladie d'Alzheimer, donc il rentre dans un rêve, il perd sa conscience. Et donc il mélange un peu ça, le réalisateur, et je dirais aussi que c'est magistral. Il mélange le réel et l'incompréhension du personnage. Ah, c'est vraiment très bien fait.
Alors, extraordinaire,
un livre magistral, un film magistral, donc, de Fazer. De
je choisis que des trucs magistraux.
Bah oui, on va continuer avec la série. Parce que pour la série, vous avez choisi la meilleure version de moi-même, de et avec Blanche Gardin, sur MyCanal. Est-ce que je me trompe ou il est question de Blanche Gardin là-dedans?
Non, non, vous avez bien vu. Blanche Gardin est une humoriste à succès, mais voilà, Blanche Gardin souffre aussi de problèmes intestinaux chroniques dont la cause pourrait être l'autodérision féroce dont elle fait preuve pour sauver ses intestins. Blanche Gardin devrait-elle décrocher?
Ça, c'est plutôt bien moulé, voyez-vous. Il faut qu'elle soit comme ça, en fait.
C'est plutôt un peu comme des truffes, comme ça, parce que y a de la constipation.
Et ce matin?
Comment? Je préfère pas parler de mes selles de ce matin.
Blanche Gardin, la meilleure version de moi-même. Est-ce que vous auriez par hasard, Daniel Gossin, c'est un petit tropisme pour les humoristes en crise existentielle?
Bah là, elle l'est pas. Hein. Je veux dire, elle campe un personnage comme ça, mais elle se moque de tous les wokismes. Moi, ça me plaît, ça. Et elle le fait très bien.
Mmh. Ouais. Magistral?
Oui, c'est magistral.
Magistral.
Je choisis ça, sinon.
Oui. Alors, pour votre chanson du moment, et pour terminer cette pop-list, Daniel Gossin, vous avez choisi Honey Pie des Beatles, mais arrangé pour guitare seule par Ludovico Cipriani, que vous décrivez vous-même comme un inconnu sur YouTube. Cette version en particulier. Vous jouez de la guitare peut-être vous-même?
Un petit peu, ouais. Mais ceci dit, très mal. Hein. Mmh. Je me suis cassé la main gauche, donc maintenant j'ai du mal. Faut que je réadapte tout à ma main, pour main gauche cassée. Voilà.
Pour main gauche cassée.
Ouais. Voilà, oui. Et donc, bah, moi aussi, je suis vraiment épaté par tous ces gens. Je dirais pas dans un quasi anonymat, parce qu'ils sont très connus. Mmh. Il y a des mondes souterrains sur Internet, ouais, hein, où ces gens existent. Honey Pie des Beatles, c'est très ancien, donc j'aurais pas choisi ça pour illustrer la pop culture actuelle. Mais là, ça tombe pile, quoi, parce que j'aime bien les Beatles. J'aime bien Honey Pie, finalement. C'était pas leur chanson préférée, moi j'aime bien. Et cette adaptation là pour un seul joueur, c'est-à-dire il fait tout. Il a la basse, il a le
solo.
La rythmique et il a le solo. Et donc contrôlé par un seul individu, ça a un petit plus. Je sais pas pourquoi, moi j'aime bien ça.
Très bien. Eh bien écoutez, moi je vous offre la version intégrale avec John, Paul,
mais oui,
George et Ringo.
Avec plaisir.
On dit les Beatles, quoi.
She was a working girl north of England way. Now she's hit the big time in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Making me
I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Come, come back to me, honey pie.
Les Beatles, Honey Pie, dans Pop 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 sur France Inter. C'était le choix de notre invité, Daniel Gossens. Daniel, il y a une séquence encore plus savoureuse qu'une tarte au miel, mais tout aussi collante dans Pop Pop Pop. C'est le grand n'importe quoi par Alexandre Véret.
Votre demande de mise en relation avec vous-même a bien été prise en compte. Votre ligne étant actuellement occupée par votre appel, nous vous invitons à vous patienter. Merci.
N'importe quoi, n'importe quoi.
Votre attention, s'il vous plaît. Il est interdit d'écouter ce message. Je répète, il est interdit d'écouter ce message. Merci.
Sur Amazon, j'avais acheté une crêpière électrique, très bon marché. Aussitôt livrée, aussitôt je l'ai branchée, et aussitôt mon disjoncteur a explosé. Cette crêpière à la con a foutu le feu à ma maison, et je n'ai plus de toit, voilà donc pourquoi je n'ai pas hésité à poster un avis produit, franchement très mauvais, je pense que c'est tout à fait mérité.
Oh oh oh.
Bonjour à nos amis bretons au passage. Un petit peu de fluide hein, chez ce Alexandre Véret et son grand n'importe quoi. Bien, merci Daniel Gossens de nous avoir rendu visite.
Merci.
Merci infiniment et bravo pour cette formidable BD La Porte de l'Univers, sortie chez Fluide Glacial. Et vous aurez compris en nous écoutant que nous sommes tous archi fans de Gossens. À Pop Pop Pop, merci encore une fois. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain. Oui. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Mathias Alléon qui était à la technique aujourd'hui.